Bonjour et bienvenue sur les ondes de Transistor pour le premier numéro d'une nouvelle émission, le journal radiophonique amplifié. Toutes les deux semaines, nous vous proposerons, notre compagnie, de décortiquer l'actualité. Nous vous proposons un véritable journal avec au programme le traitement des grands thèmes par les médias, une enquête de l'économie et deux billets, l'un politique et l'autre international. Alors autour de moi, quatre voix, deux voix masculines et deux voix féminines. Tout à l'heure, il vous parlera économie. Lino, bonjour.
Bonjour.
Alors de quoi vas-tu nous parler aujourd'hui ?
De la Grèce et de la neige, enfin, l'effet boule de neige.
On est impatient d'entendre ça. Une voix féminine pour un édito politique. Bonjour Maëlys.
Bonjour Clément.
De quoi as-tu prévu de nous parler aujourd'hui en politique ?
D'un épisode assez récurrent. On appelle ça des dérapages. C'est bientôt les élections.
Alors maintenant, je me tourne vers toi, Céline, qui est chargée de faire l'édito international pour ce premier numéro.
Bonjour Clément.
Et tu nous emmènes en Orient, il me semble, aujourd'hui ?
Oui, surtout en Syrie, 4 ans après les premiers soulèvements contre le régime de Bachar el-Assad.
Oui, qui serait peut-être redevenu fréquentable. Et enfin, une nouvelle voix que vous n'avez jamais entendue sur Transistor, une voix qui vous parlera de l'actualité. Jérémy, bonjour Jérémy.
Bonjour.
Et justement, c'est par toi que l'on va commencer, puisque c'est toi qui inaugure ce premier numéro avec les grands thèmes de l'actualité.
Bonsoir à tous dans l'actualité ce soir.
La revue de presse de Natacha Polony avant de retrouver...
Reportage, on se retrouve après.
Alors l'un des grands thèmes de l'actualité ces jours-ci, ce sont les pillages commis par Daesh, par l'État islamique en Syrie, n'est-ce pas ?
Oui, les opinions publiques occidentales finiraient presque par s'habituer aux assassinats perpétrés par Daesh, dont les mises en scène sanglantes scandent l'actualité internationale. Alors jamais à court d'idées pour frapper les consciences, le prétendu État islamique sait aussi recourir aux symboles, comme le prouvent les pillages d'œuvres d'art perpétrés dans la province de Ninive, en Irak. Des pillages qui ont atteint leur objectif, celui de choquer l'Occident qu'ils visaient. Les médias y consacrent de longs développements ces jours-ci. Le Monde titre à Mossoul l'art victime de la barbarie. Libération, l'État islamique déverse sa haine sur les antiquités de Mossoul. Et Philippe Gelly, dans son éditorial du Figaro, va jusqu'à parler de crimes contre l'humanité. Que manquait-il aux djihadistes, demande-t-il, dans leur catalogue de la sauvagerie, pour démontrer une bonne foi au reste du monde qu'ils n'appartiennent pas à la communauté des hommes ? On lira d'ailleurs avec intérêt les pages que Le Figaro et Le Monde consacrent au pillage. Même si Elisabeth Folland, conservatrice au Louvre, souligne que la plupart des originaux avaient déjà été transportés ailleurs lors de la guerre d'Irak en 2003, la portée symbolique de tels gestes n'échappe à personne. Interviewé dans Le Monde, l'historien Gabriel Martinegro va jusqu'à parler d'un djihad mené contre le passé. On a un petit groupe mu par une volonté de pureté radicale et totalitaire, furieusement iconoclaste.
Alors, on a le sentiment d'une grande unité de ton dans tous ces articles. Alors, l'indignation ?
L'indignation surtout. Mais point aussi dans ces articles, la difficulté à trouver des sources fiables. En fait, les médias dépendent surtout de la propagande de Daesh. Et avant tout aussi la question, comment réagir face à ces barbaries ? Mystère. Le Parisien de vendredi fournit ironiquement une réponse avec une somptueuse double page, le Charles de Gaulle croise contre Daesh, un reportage exclusif et très complaisant, presque ridicule tant il manque de subtilité, avec un encadré merveilleux, le Charles de Gaulle comme si vous y étiez. De la com donc, pour contrer la com de l'autre camp, pas sûr que cela suffise.
Effectivement, et nous parlions de com, et les péripéties de la vie politique française font aussi le miel des médias, non ?
Mais oui, nous avons aussi nos propres iconoclastes chez nous, avec la loi Macron, et tous ceux qui souhaitent briser les vieilles idoles du modèle social français. Donc après le Fahrenheit 49.3 de la semaine dernière, les médias reviennent sur les élections départementales qui s'annoncent difficiles. L'esprit du 11 janvier, si favorable au gouvernement, semble s'être évaporé pour de bon. Alors chaque quotidien y va de sa petite prospection, avec graphiques et statistiques livrées clés en main. Le Figaro comme Libération titre sur des sondages, réalisés par des instituts différents, mais dont les résultats convergent pour annoncer une victoire de la droite les 22 et 29 mars, dans des pages où le conditionnel affleure à chaque ligne. Mais la conclusion est simple à tirer, et c'est Challenge qu'il fait le mieux, en reprenant des formules de cadre du PS qui annoncent une dérouillée monumentale, une rouste mausse, et d'autres carrément une branlée. Le vocabulaire est très riche en la matière.
Et dans le détail, qu'est-ce qui explique ces pronostics ?
Eh bien, Le Monde de dimanche lundi fournit une analyse très intéressante d'un chercheur en sciences politiques à l'université Harvard. Le récent redécoupage des cantons, explique-t-il, va favoriser le parti qui remportera le plus de voix, donc sans doute l'UMP. Au détriment, bien sûr, des petites formations et du PS lui-même, qui est pourtant l'auteur du dit redécoupage. Alors, calcul politique pour désamorcer le poids du FN ou maladresse supplémentaire, en tout cas, le pluralisme n'en sort pas grandi. Mais nous apprend-on, et c'est très curieux, il paraît que la démocratie sortira renforcée de tout cela, avec, je cite, « à la fois une stricte parité homme-femme dans les nouveaux conseils et un meilleur équilibre démographique dans les cantons ». Le problème, c'est que ces arguments un peu minces fournis par Le Monde rappellent quelque chose. En l'occurrence, c'était déjà les arguments du gouvernement pour justifier le redécoupage l'année dernière. Et là, il se reprit tel quel. Donc, comment expliquer cette bizarrerie ? Eh bien, il faut regarder en tout petit l'encart dans le coin inférieur droit de la page. Et on apprend là-bas que le dossier est réalisé par une société de conseil en stratégie électorale qui a dirigé la campagne de porte-à-porte de Hollande et qui conseille encore son gouvernement pour les élections départementales. Autrement dit, cela ne dérange pas le journal de référence de recycler dans ses pages les analyses des conseillers gouvernementaux. Une belle leçon de neutralité.
Oui, belle leçon de neutralité, en effet. Et donc, la droite va peut-être pouvoir, pour ses départementales, profiter de la défaite annoncée du PS.
Ce n'est pas certain. Le Figaro complète ses pages politiques par une interview fleuve de Nicolas Sarkozy, en forme de programme électoral, de proposition économique surtout. Programme un peu brouillon et sans grande originalité par rapport à ses nombreux rivaux déclarés, de Wauquiez à Le Maire et à Juppé. Une rhétorique ultralibérale qui commence à être un peu usée et ne risque guère de convaincre. Mais certains pourraient bien y trouver leur compte. Par exemple, Marine Le Pen. Libération fait sa une en annonçant « des 21 avril partout ». La faillite des partis de gouvernement français profite au moins à quelqu'un.
Merci Jérémy pour ta chronique qui se finit sur une note malheureusement assez pessimiste. On va maintenant quitter l'actualité nationale pour faire un petit peu de local. Alors en effet, à chaque numéro, le journal va vous proposer une enquête afin de faire la lumière sur quelque chose de louche en France, en Europe ou ailleurs évidemment. Et je vais vous annoncer du local parce que à Lyon, tout Lyonnais connaît le musée des Confluences avec sa forme de vaisseau spatial qui se dessine prêt à décoller dans le paysage. Et c'est toute la France qui, à la fin de l'année dernière, en a entendu parler. Des affiches dans le métro parisien, des articles dans les journaux nationaux et internationaux, et une inauguration en grande pompe en décembre dernier. Alors sur le papier, on le sait, le musée a tout pour plaire. Les collections du musée Guimet, l'ancien musée d'histoire naturelle de Lyon, et une place centrale dans le quartier de la Confluence, un quartier décidément de plus en plus attractif. Pourtant, si le musée est connu, c'est surtout pour sa construction. Elle a été longue, houleuse et faite de nombreuses malfaçons. Rendez-vous compte un petit peu, le projet remonte à l'année 2000 et le musée n'a été livré que l'année dernière. Et maintenant qu'il est livré, ses perspectives sont très incertaines. Non seulement ses coûts de fonctionnement s'annoncent élevés, mais comme il a été en partie financé par des emprunts toxiques, il grève déjà le budget de la jeune métropole lyonnaise.
Si Vinci avait mis autant d'ardeur à réaliser le chantier qu'il en met depuis 4 jours à mobiliser tous les élus en sa faveur, le musée serait fini depuis longtemps.
La polémique encore et toujours autour du musée des Confluences. Cette fois, c'est le Conseil Général qui attaque et demande des comptes à la société Vinci. 41 millions d'euros en guise de pénalité de retard sur le chantier. Actualisée aujourd'hui, la facture du chantier s'élève désormais à 255 millions d'euros hors taxes.
Alors Vinci, des pénalités de retard, un musée qui coûte la peau des fesses ou les yeux de la tête, comme vous préférez. Ce qui est sûr, c'est que l'on n'y voit pas clair du tout. Alors à l'origine, en 2000, le projet a été estimé à 60 millions d'euros. Vous venez d'entendre le chiffre de 255 millions, hors taxes, et l'association Canol, une association de contribuables du Lyonnais, parle, elle, de 287 millions d'euros pour le bâtiment et fait grimper la facture au chiffre délirant de 327 millions si l'on prend en compte les coûts du terrain. Alors pourquoi un tel dépassement de budget ? La première tient à la nature même du projet voté en 2000. On décide de construire le nouveau musée dans la région de Confluence, alors en plein réaménagement, sans lui assigner de terrain. On décide de le construire quelque part, entre la pointe de la Presqu'île et la gare de Perrache. Et le projet de musée, il semble plus servir d'argument électoral que de projet d'aménagement. En 2001, Michel Mercier, le porteur du musée, est candidat à la mairie de Lyon. Et il présente un projet de bâtiment fait par un cabinet autrichien comme argument électoral. Manque de chance, cela ne suffit pas et c'est le socialiste Gérard Collomb qui remporte le scrutin.
Et donc en 2001, on a bâtiment, mais pas de terrain ?
Oui, exactement, ce qui est normalement impossible dans les procédures françaises. Et cette question du terrain constitue rapidement un gros problème. Alors, dans Libération, le 4 décembre dernier, Michel Mercier s'expliquait ainsi. « J'aurais préféré ailleurs, mais Raymond Barre, alors maire de Lyon, a souhaité qu'on construise là. C'était le plus mauvais endroit possible, car il n'y avait pas de sol, et on savait très bien que ça n'irait pas. Parce que oui, hein, la zone de confluence, elle est loin d'être stable par définition. Et cela pose d'autant plus de problèmes que le musée est lourd. Et le terrain, en plus d'être instable, il était très pollué, ce qui a engendré des travaux énormes. Alors cela augmente considérablement la facture, puisqu'elle passe de 112 millions d'euros en 2003 à 153 en 2006. Et le département du Rhône se retrouve alors obligé de vendre des actions de la Compagnie Nationale du Rhône pour financer le projet, des actions qu'il aurait pu vendre beaucoup plus cher dans le futur. Et la construction ne commence qu'en 2006, mais se retrouve émaillée de problèmes. En 2008, le constructeur initial abandonne le projet, qui est repris par Vinci en 2009. Et si aujourd'hui le Conseil Général veut faire payer à Vinci des pénalités de retard, c'est parce que la date de livraison du musée n'a cessé d'être retardée. Résultat de tout ça, un musée monumental, certes, mais plus cher que celui du Quai Branly. Et il n'est pas sûr que la question soit réglée, car les coûts de fonctionnement aussi risquent d'être très élevés, ne serait-ce qu'à cause de l'entretien de la structure. Alors là aussi, flou total, hein. On est dans une fourchette de 15 à 30 millions d'euros par an, alors que le musée espère 3 millions de recettes seulement pour sa première année, avec la fourchette haute de 500 000 visiteurs. Et donc la métropole lyonnaise, qui a récupéré la gestion du musée le 1er janvier dernier, voit son budget, je vous l'ai dit, déjà bien grévé par ce musée, puisque la métropole a récupéré une partie des dettes du département du Rhône qui ont servi à le financer.
La construction a été un gouffre financier et cela risque de continuer ?
Oui, mais on a des perspectives assez incertaines. Et pourtant, le musée ne manque pas d'atouts, hein. Ses collections sont exceptionnelles, plus de 2,2 millions d'objets. Et le succès a l'air au rendez-vous. Alors Le Progrès, journal local, hein, expliquait le 21 février dernier que le cap des 200 000 billets vendus avait été dépassé. Et puis le musée a un projet bien ambitieux, hein. Comme son nom l'indique, il veut réunir les lettres et les sciences, les beaux-arts et l'archéologie. Science et Avenir, en décembre, regrettait toutefois une certaine confusion de cette volonté de transdisciplinarité. A voir donc dans la durée, mais pour le moment, le public semble répondre présent. Alors l'émission avance, hein, chers auditeurs. Après les thèmes de l'actualité et après une petite enquête sur le musée des Confluences, il est temps de passer à nos autres rubriques, l'économie et après nos éditorialistes. À nouveau à l'actualité depuis la victoire de Syriza, la Grèce et la question de sa dette sont aujourd'hui à nouveau sur le devant de la scène. Hein.
Oui, et en fait, ce problème est bien connu des économistes, c'est ce qu'on appelle le problème grec, en fait un problème d'effet boule de neige. Le problème de la Grèce, c'est que son taux de croissance est en fait très faible et on va le voir, il a même été négatif. Et il est inférieur au taux d'intérêt qui est le taux auquel prêtent les créanciers à la Grèce. Or, dans une telle situation, un État doit dégager un fort excédent primaire, c'est-à-dire avoir un excédent budgétaire avant même le paiement des intérêts. Car si le taux d'intérêt est supérieur au taux de croissance, c'est mécanique, le ratio dette sur PIB augmente. C'est comme en fait une boule de neige qui va grossir toute seule en roulant. Or, la Grèce est en fait bien empêtrée dans ce problème d'effet boule de neige. Son solde budgétaire est positif de l'ordre de 0,5% du PIB. C'est déjà énorme quand on sait que le déficit primaire français est de 2% et le déficit global de 4,3%. Le déficit global, c'est après paiement des intérêts. Malheureusement pour la Grèce, malgré un tel excédent, ce n'est pas suffisant pour faire décroître le ratio d'endettement. Le taux d'intérêt qu'accorde la Troïka est d'environ 1,5%. Pour une échéance sur 30 ans, c'est un taux très favorable quand on connaît les conditions, on va dire, déplorables de la dette grecque. Aux conditions de marché, cette dette s'échange à peu près à 9,15% pour du 10 ans, même pas du 30 ans. Donc vous imaginez si la Grèce se fournissait sur les marchés, ce que ça donnerait. Avec un taux de croissance négatif entre 2008 et 2014, qui a même parfois atteint moins 10% sur une seule année, c'est-à-dire un recul de la production de 10% par an, et un taux d'intérêt de 1,5%, on voit bien ce problème de boule de neige, et ce qui explique l'explosion de la dette grecque, qui atteint aujourd'hui 175% du PIB. Et en fait, Syriza, comme les créanciers, la Troïka, veulent un excédent primaire. Et en fait, c'est là que se cristallise le conflit. Syriza propose 1,5% du PIB, alors que la Troïka veut 3%. 1,5%, c'est déjà énorme, mais ça risque de ne pas être suffisant pour faire décroître rapidement le ratio. Mais le taux de 3%, bien sûr, paraît excessif, puisque cela implique énormément d'efforts à un pays qui connaît déjà un taux de chômage de 25%. Pour resituer les données du problème, depuis 2010, le FMI a prêté 32 milliards à la Grèce. C'est pas énorme quand on sait que les États européens ont prêté 227 milliards d'euros au total, via deux canaux. Le premier canal est en fait un prêt bilatéral simple. C'est tout simplement l'Allemagne a prêté 15 milliards directement à la Grèce et la France 11 milliards dans un dispositif qu'on a appelé le Greek Loan Facility qui pèse un total de 80 milliards. Le second canal, qui est plus important, est le Fonds européen de stabilité financière. Vous en avez sans doute déjà entendu parler, qui lui pèse pour 142 milliards, donc beaucoup plus que les 32 milliards du FMI. Donc, au sein de ce Fonds européen de stabilité, la France a garanti environ 20% du montant total, soit 31 milliards. Donc, si on additionne, je vous le dis tout de suite, c'est additionner des choux et des carottes, on arrive à une exposition de la France de l'ordre de 42 milliards. En gros, la France détiendrait 42 milliards si on fait la somme. À cela, il faut ajouter l'exposition de la France au sein de l'eurosystème. En simplifiant un peu, c'est la part d'exposition de la France via la dette que possède la BCE, c'est 20 milliards. Donc on arrive à un chiffre magique de 60 milliards. On est 60 millions de Français, vous le sentez venir. On va vous dire que la dette grecque pèse 1000 euros par habitant. Donc, si je vous ai abreuvé de ces chiffres, c'est pour vous montrer que ce chiffre d'un coût de la dette grecque de 1000 euros par Français est en fait totalement fantaisiste. On additionne des choux, des carottes et des navets. En fait, il part de plusieurs hypothèses totalement folles. D'abord, la France fait cadeau de l'ensemble de la dette qu'elle détient. La France est très généreuse. En particulier, cela néglige totalement la différence qu'il y a entre un prêt bilatéral et un mécanisme de mutualisation de la dette. Bon, allez, admettons que l'on ait commis cette terrible approximation en faisant cette hypothèse. Donc, on a fait cette hypothèse, mais cela suppose aussi que l'on va faire payer en une seule fois aux contribuables français l'ensemble de ce coût. Bon, vous imaginez que c'est un peu... que ça va pas très bien passer. Donc, ne croyez pas ce chiffre d'un coût de la dette de 1000 euros par Français. Dans une situation normale, c'est-à-dire si le pays était libre de contrôler sa monnaie, ce que ferait la Grèce, c'est une dévaluation. Cela favoriserait les exportations, ce qui va être vecteur de croissance. Donc, va augmenter le taux de croissance, réduire l'effet boule de neige. Mais en plus, cela aurait l'avantage de provoquer de l'inflation, ce qui est bon quand on est endetté, parce que l'inflation vient réduire le coût de la dette. C'est ce qu'on appelle monétisation de la dette. Et c'est ce que Mario Draghi fait en partie par son programme de quantitative easing, dont l'un des buts est de faire chuter le taux de change. Mais Super Mario, sans Angela, ne peut pas faire grand-chose. Si l'Europe était une zone monétaire optimale, il existerait des mécanismes de redistribution des pays en excédent budgétaire et extérieur, l'Allemagne, vers des pays qui connaissent des déficits jumeaux, la Grèce, déficit donc de l'État et déficit commercial. Bon, le point de vue allemand, bien sûr, n'est pas illégitime et compréhensible, mais il faut que les pays qui ont une marge de manœuvre soutiennent ceux qui sont en difficulté. C'est le principe même d'une zone monétaire optimale. En cas de choc asymétrique, il existe des mécanismes de redistribution. Donc, et si on ne fait pas ça, on risque de pousser la Grèce vers ce qu'elle ne veut pas, c'est-à-dire un Grexit, la sortie de la Grèce de la zone euro. Alors certes, ce serait moins coûteux qu'en 2010, mais un abandon des brebis galeuses serait un très mauvais signal et risquerait de déchaîner les spéculations sur les autres pays en difficulté, en premier lieu les pays d'Europe du Sud, voire même la France.
Alors merci Luno, on reparle évidemment de la situation grecque tout à l'heure. Maintenant, c'est l'heure d'écouter nos éditorialistes et enfin d'entendre des voix féminines dans le journal radiophonique amplifié.
Bonsoir à tous, dans l'actualité ce soir.
La revue de presse de Natacha Polony avant de retrouver...
Reportage, on se retrouve après.
commençons peut-être par l'édito politique. Il y a des élections bientôt et des dérapages. Maëlys, je te cède la parole.
Alors moi aujourd'hui, c'est un petit édito local et de saison que je vous propose en ce début mars, alors que le soleil brille, que les oiseaux chantent, que les grenouilles croissent, que les moutons bêlent dans le jardin de Léonèse Descartes. Oui, c'est bientôt le printemps et comme chaque année, c'est la saison des urnes. Non Clément, ce n'est pas une contrebeterie. Par contre, jadis les normaliens, se battaient autour des urnes, ça c'en est une. Bref, revenons à nos mouflons, il va falloir voter les amis et faire notre devoir de citoyen comme on l'apprend en cours d'éducation civique au collège. Cette année, ce sont les départements qui sont à l'honneur. Élection du Conseil Général, s'il vous plaît. Et qui dit élection locale dit beaucoup de candidats. Qui dit beaucoup de candidats dit mécaniquement beaucoup de candidats FN. Qui dit beaucoup de candidats FN dit beaucoup de dérapages, bien sûr. Comme d'habitude, il aura fallu les ratisser large pour monter des listes potables un peu partout en France, quitte à dégoter quelques énergumènes racistes, antisémites ou islamophobes. Bon voilà, c'est un peu comme les reportages sur la rentrée ou les courses de Noël, on n'y échappe malheureusement pas. On avait déjà halluciné l'année dernière pour les municipales. La cuvée de cette année est plutôt remarquable, dans le genre choquant et tristement risible. Au menu cette année, un candidat girondin qui nous promet travail, famille, patrie. Et oui, le pétiniste est une espèce menacée de nos jours en France, mais qui malheureusement n'a pas encore disparu. Également sur les listes FN, un Aveyronnais qui a appelé à la destruction des Juifs, une fois et pour toujours, je cite, sur son compte Facebook. Bon, ce discours serait peut-être passé inaperçu il y a 75 ans dans un journal antisémite et collabo, mais en 2015, ça la fout mal quand même. Toujours sur le mode « je suis nostalgique du nazisme et je l'assume sans complexe », nous avons un candidat auvergnat qui avait posté sur son compte Facebook une jolie croix gammée, accompagnée de ce message de paix. « Marine, tu es la réincarnation d'Hitler, toi tu vas nettoyer la France. » Voilà. Ne vous inquiétez pas, il y en a aussi pour les musulmans et les homosexuels. Une candidate de l'Ariège a appelé à éliminer, je cite, les musulmans par tous les moyens possibles. Oui, vous ne rêvez pas, on est en France, en 2015, et ces personnes sont potentiellement en passe de vous représenter. Bon, alors bien sûr, une fois que le scandale éclate, c'est sûr, il faut machine arrière. Je ne suis ni raciste, ni islamophobe, c'est défendu un candidat en Bretagne, c'est pas par chez toi, Lino. En passe d'être exclu du FN, qui avait posté des photographies de Pierre Berger et de l'anthropologue Dounia Bouzard avec une cible sur le front, élégamment sous-titrée « Français, Française, ne nous laissons pas faire ». Et il avait partagé en outre des photomontages comparant Taubira à un singe. Voilà, c'est pas du joli. Du classique. Bien sûr, la direction du FN minimise. Le secrétaire général du FN, Nicolas Bay, a affirmé qu'on comptait les dérapages sur les doigts d'une main. Bon, en réalité, quand on fait le tour des affaires qui ont été révélées de ces derniers temps, cela tourne plutôt autour des doigts des deux mains avec quelques orteils en plus. Mais bon. Toujours est-il que voilà, 99% des candidats FN qui se présentent aux départementales sont clean et savent se tenir sur les réseaux sociaux. Et les récalcitrants sont traités, je cite, avec fermeté et promptitude. C'est un peu comme le loup qui tente de pénétrer dans une bergerie déguisée en brebis et qui laisse échapper de temps en temps un bout de sa queue et ou qui laisse scintiller ses canines et qui dirait aux brebis « Mais non, ce n'est rien, ne faites pas attention, c'est un détail malheureux. Je vous promets, je suis une gentille brebis. » Ces dérapages récurrents de candidats ou de personnalités FN ne sont pas bien sûr des dérives isolées. Ils donnent simplement un aperçu de ce qu'il y a derrière le masque politiquement correct, de Marine Le Pen qu'elle essaie de construire pour son parti. Au vu de ce que certains candidats osent publier aux yeux de tous sur les réseaux sociaux, on n'ose même pas imaginer ce qui peut se dire au fond des salles de conseil où se réunissent les militants FN, ceux qui composent la réalité profonde de ce parti. Mais qui croira ce discours, me direz-vous? Qui se laissera prendre au piège? Dans une enquête Odoxa pour Le Parisien parue aujourd'hui, 33% des Français interrogés déclarent vouloir voter FN pour les départementales. Impensable il y a quelques années, avant le 11 avril 2002, avant le 25 mai 2014, c'était mon anniversaire. C'est désormais un leitmotiv dans les sondages et les dérapages révélés, les comportements haineux ne prennent plus désormais l'ascension du Front National. C'est triste à dire, mais cette année c'est officiel, plus les opinions antisémites et racistes multiplient, plus elles se banalisent, moins elles choquent. Moi je me retirais bien dans une grotte ou sur une île déserte, pas vous?
On te comprend parfaitement, je pense que nous aussi. Et on reparle de ton édito tout à l'heure, évidemment, ne serait-ce que parce que je n'ai pas compris la contrepétrie, et je suis très curieux. Mais avant, Céline, Tu t'occupes pour ce premier numéro de l'édito international et tu nous emmènes en Syrie. Bachar el-Assad est toujours là et redeviendrait presque fréquentable, n'est-ce pas ?
Exactement, Clément. Mais selon le dernier bilan de l'Observatoire syrien des droits de l'homme début février, la guerre civile en Syrie a fait 210 000 morts en 4 ans, dont 10 660 enfants. Daesh, pour l'instant, c'est 20 000 morts. Pourtant, on ne fait pas diplomatie avec de la morale et des bons sentiments, et ça, les 4 parlementaires français qui se sont rendus la semaine dernière à Damas pour rencontrer Bachar el-Assad l'ont bien compris. Les 4 gugus pour Nicolas Sarkozy, à savoir les 2 UMP Jacques Mignard et Jean-Pierre Vial, l'UDI Françoise Oketo et le socialiste Gérard Bapt, ont en effet rendu visite au président syrien, initiative condamnée par François Hollande et par le Quai d'Orsay, et qualifiée par Manuel Valls de faute morale. Alors 4 ans après les premiers soulèvements du 15 mars contre le régime, 3 ans jour pour jour le 2 mars après la fermeture de l'ambassade de France en Syrie, faut-il rouvrir le dialogue avec Bachar el-Assad et contrer l'ennemi commun, la menace djihadiste ? Cette question ouverte par la visite des députés français qui s'en revendiquent n'est pas uniquement française. Qui est le véritable ennemi et avec qui et quoi le combattre ? Dans la grande campagne de dédiabolisation de son régime que Bachar el-Assad est actuellement en train de mener au niveau européen, se fait jour un raisonnement très simple, fondé sur le principe du moindre mal. Entre 2 mots, il faut choisir le moindre. Analyste, journaliste, homme politique ou diplomate n'ignore rien des atrocités commises par le régime, non seulement contre ses opposants, mais surtout contre sa population civile. Et pour la stabilité du Proche-Orient, pour contrer les réseaux djihadistes qui menacent d'engloutir l'Afrique, et pour lutter contre l'extrémisme, il propose pourtant de rouvrir le dialogue avec Bachar el-Assad. Cette position qu'on pourrait traiter de cynique n'en est pas moins réaliste. Actuellement, jusqu'au médiateur des Nations Unies traite avec le président syrien pour faire le lien avec l'opposition. De même, dans le cadre des opérations aériennes contre l'État islamique, les États-Unis ont choisi de survoler le territoire syrien, chose impossible sans l'information et l'accord tacite des autorités syriennes, mais solution à laquelle se refusent toujours autorités britanniques et françaises. Enfin, un règlement réaliste du conflit syrien n'est pas envisageable sans l'implication des minorités protégées par le régime, comme la minorité chrétienne, non représentée par l'opposition, ainsi que des éléments actuels du régime dont les intérêts pourraient converger avec ceux de la frange modérée de l'opposition. Il y a pourtant un mais. La réalité actuelle du conflit, c'est que Bachar el-Assad est un géant au pied d'argile, qui tient encore à la tête du pays grâce à l'aide extérieure combinée du Hezbollah d'une part, l'organisation militaire libanaise financée et armée par l'Iran, et par les officiers des gardiens de la révolution d'autre part, qui viennent tout droit du même régime iranien. La réalité, c'est aussi que Bachar el-Assad ne maîtrise qu'une partie de son territoire, au prix de violations des droits de l'homme quotidiennes, de tortures, de gaz chimiques et d'exactions contre sa propre population. Soutenu jusqu'au bout par l'Iran, prendre parti pour la Syrie, ce serait aussi se positionner au sein d'une guerre confessionnelle dont le territoire syrien est devenu aujourd'hui l'emblème. D'un côté, la famille Assad, appartenant à la branche chiite, dont le bastion aujourd'hui est l'Iran, et de l'autre, une population syrienne à majorité sunnite, branche soutenue par les monarchies pétrolières comme le Qatar, dont beaucoup se sont engagés auprès de Daesh. En effet, la population syrienne délaissée par l'inaction occidentale, constamment opprimée et prise pour un foyer de terroristes, a été poussée à la radicalisation et à l'extrémisme en constatant les atermoiements et reculades des chancelleries occidentales. Ligne rouge après ligne rouge, comme en août 2013, après l'utilisation de gaz chimiques contre son peuple, Bachar el-Assad a minutieusement mis à l'épreuve la capacité de réponse des Occidentaux. Poussée à bout, la majorité sunnite de Syrie et la minorité sunnite d'Irak se sont jetées dans les bras de Daesh pour contrer leur marginalisation croissante organisée par les chiites. Prendre le parti d'Assad et de l'Iran, ce serait alors élargir les rangs de l'État islamique, et pire encore, enflammer un conflit qui s'étendrait bientôt à tous les pays de la région, Turquie comprise. Les récents attentats en Égypte, la situation du Yémen au bord du chaos ou encore de la Libye ne font que confirmer un peu plus ce scénario. Nous voilà donc devant de nouvelles questions insolubles. Y a-t-il un moment où la diplomatie devient contre-productive, où un renversement des rapports de force militaires devient nécessaire ? Et surtout, quelle est la priorité, lutter contre Daesh ou contre Bachar el-Assad ?
Alors merci Céline pour ces nouvelles du Moyen-Orient qui restent peu réjouissantes. À la fin de l'émission, un peu d'interaction, on a décidé de prendre un peu de temps pour discuter. Et alors maintenant sur la série...
Un doodle ?
Alors non.
Comme les autres, je trouve ça assez maladroit.
Fort conservatisme patrimonial et c'est...
On ne se moque pas.
On fait avec ce qu'on a.
Je cherchais une contrepétrie avec urne et j'ai...
J'y passe tous les jours.
On continue à parler de Daesh. Alors Jérémy, tu nous parlais de cette vidéo qui a circulé où on voit des membres de Daesh détruire des œuvres d'art. Est-ce que vous l'avez vu cette vidéo ou...
Alors non, moi je ne l'ai pas vu. J'ai entre guillemets refusé de la voir parce que c'est quand même. Enfin, j'ai entendu beaucoup de gens en parler, les médias, les journaux, etc. Mais je pense qu'on est un peu devant la même chose qui s'était produite en Irak il y a déjà quelques années avec la destruction des grands Bouddhas. Et ça fait déjà assez mal au cœur de savoir tout simplement que ça s'est passé. Et bon. En fait, je pense que si on regarde ces vidéos, on se prête aussi à la manipulation qui est en ce moment orchestrée par Daesh, qui se fait beaucoup à travers les médias, les nouveaux moyens de communication, ces vidéos, ces réseaux sociaux. Et je n'ai pas forcément envie d'en être partie intégrante.
Oui, c'est toujours le problème avec ce genre de vidéos, regarder ou ne pas regarder. Surtout qu'il y a toujours le risque d'une certaine complaisance à voir ces images. Bon, celles-ci ne sont pas les pires, évidemment. Daesh se sert effectivement beaucoup des réseaux sociaux, de YouTube, d'archives.org, de Twitter, surtout de Twitter. Personnellement, j'ai choisi de regarder quand c'est regardable et de m'informer envers et contre tout, puisque de toute façon, les vidéos sont diffusées, mises en ligne et accessibles, qu'on choisisse de les regarder ou non. Alors... autant en prendre connaissance.
Ouais, un véritable terrorisme 2.0. Oui, Céline ?
Alors moi, par contre, je n'ai pas regardé les vidéos, mais j'ai regardé les caricatures que les gens en ont fait, notamment celle de Plantu, je crois, qui en fait décrit tout simplement les djihadistes qui sont en train de sortir du musée en question et qui disent « Waouh, je crois que c'est la première fois que je vais au musée, j'ai passé vraiment un très très bon moment, du coup ça m'a fait un peu rire ».
Il y a celle de Zep aussi dans lemonde.fr qui est vraiment très 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 drôle puisque en fait on voit un djihadiste avec un marteau piqueur, enfin un peu avec le trait de crayon de Zep, hein, le djihadiste un peu ado des années 90, tout ça. Et en train de. Avec un marteau piqueur sur une statue, qui met de la peinture blanche sur un tableau, etc. Et en fait à la fin, une fois qu'il a tout détruit, il a encore toutes les images qui le hantent dans sa tête.
Oui, les images
de statues dénudées, c'est ça. Et il va se plaindre à un de ses collègues djihadistes, enfin voilà, c'est un de ses complices. Et du coup son pote est obligé de l'abattre
parce qu'il a des pensées impures
donc ouais, il était assez drôle ce dessin.
Alors sur un sujet un petit peu plus léger maintenant sur le musée des Confluences, alors je vous parlais de perspectives incertaines, est-ce que certains d'entre vous y sont allés? Moi j'avoue ne pas avoir eu le temps d'y aller malheureusement.
Je suis passée en tram devant et à ce moment-là il y avait une queue énorme.
Ah ouais, c'est monstrueux. Oui, il y a un monde fou, en particulier pendant les vacances, c'était assez impressionnant.
Ah bah c'est plutôt bon signe alors pour le musée.
Bon, on a un peu exagéré au niveau du prix, mais... un petit peu. Mais il faut quand même oser. C'est un gros problème à Paris, c'est plus rien se construit parce qu'il y a un fort conservatisme patrimonial et c'est un peu dommage.
Oui, et à Lyon, on a osé construire un nouveau bâtiment à l'architecture particulière.
Alors, on a certes osé construire un bâtiment à l'architecture particulière à Lyon, mais enfin, Lyon arrive assez loin derrière. Enfin, en tout cas, est très en retard par rapport à Marseille, qui, je trouve, fait plus l'événement avec le MUCEM récemment qu'avec le Musée des Confluences. Alors, c'est peut-être tout à fait subjectif, mais je pense qu'ils auraient peut-être pu réussir mieux leur coup s'ils n'avaient pas eu autant de retard et s'ils avaient réussi à passer avant le MUCEM. Là, c'est un petit peu dommage pour Lyon, en l'occurrence, parce que, en fait, on se fait une concurrence à coup de musée, donc oui, certes, mais enfin...
Après, il y a eu il me semble avoir vu dans la presse internationale, dans le Times notamment, il y a eu de la pub et des critiques pour le musée, donc il a quand même eu une...
Et pour les gens qui passent en train, justement, vers Marseille, ils voient le musée et ils en parlent.
Moi, j'y suis pas allée, mais à chaque fois que les gens m'en parlent, ils me disent « Mais il y a quoi au fond dans ce musée ?» Enfin, peut-être que la communication n'a pas été très bien faite de ce côté-là. Et peut-être qu'on perd un peu aussi... il y a quoi dans ce musée? Oui, c'est la confluence des cultures. Enfin, c'est très, très vague, tout ça.
Oui,
et peut-être qu'à faire un musée un peu plus spécialisé, mais qui montrerait des pièces exceptionnelles ou du moins avec une unité thématique... On attirerait davantage de monde. Mais...
Oui, parce qu'il en a en plus des pièces exceptionnelles, des squelettes de dinosaures, des choses assez extraordinaires. Alors, maintenant, sur la question grecque, moi j'avais envie de vous demander quelque chose à vous tous, puisque ces derniers temps, est intervenue et revenue sur le tapis la question des réparations de l'Allemagne, donc l'argent que les nazis avaient pris de force aux banques grecques, dont on ne sait pas vraiment ce qui est advenu ensuite, en tout cas il n'a pas été remboursé, et le gouvernement de Tsipras a remis cette question sur la table récemment, et je voulais savoir un petit peu votre avis sur cette question.
C'est symbolique, c'est pour, voilà, c'est pour peser sur la négociation. Honnêtement, j'ai pas les chiffres en tête, mais enfin, par rapport à la dette grecque, ça va rien représenter. Est-ce que c'est forcément une bonne chose de revenir en 45? Enfin, il y a un moment, faut aussi tourner la page.
Oui. Je trouve que c'est un peu l'argument de la mauvaise foi qu'on ressort et qu'on ressortirait probablement si la France était concernée, parce qu'on aimerait beaucoup avoir aussi un argument à leur opposer. Mais la question, c'est aussi est-ce qu'on en est encore resté justement à 45? Est-ce que l'Allemagne est toujours encore tributaire de ce qu'elle a fait, ou de ce que certains de ces... Enfin voilà, de ce que les nazis ont fait? Est-ce que l'Allemagne, c'est toujours les nazis? Ça a aussi dit quelque chose de la manière dont ça dit quelque chose de la manière dont l'Allemagne est actuellement perçue aussi en Grèce. Le climat est de toute manière très mauvais entre les deux pays, mais voilà, bon.
Puis l'Allemagne a fait énormément d'efforts après la réunification, par exemple. Faut pas l'oublier qu'ils ont quand même été séparés pendant une quarantaine d'années.
Oui, budgétairement, la réunification a été extrêmement compliquée pour le pays.
En même temps, en ce moment, les Grecs, ils en bavent aussi pas mal. Oui. Et on va pas non plus leur demander. Enfin, je veux dire, on va pas non plus leur demander d'être bons princes, quoi, et de passer dessus comme ça. Je pense que c'est aussi dû. Enfin, tous les coups sont bons, sont permis pour. Enfin, voilà, pour faire suer les gens qui les. Enfin, les autorités européennes.
Les gens qui sont responsables, selon eux, de leur
misère. Voilà, de leur dette et de leur misère.
Voilà, sans transition municipale, donc, le Front National a conquis plusieurs mairies. À Hénin-Beaumont, le changement de style est déjà visible.
Dédicacé à tous ceux qui n'en peuvent plus à Hénin. Ce petit patelin où notre programme va être appliqué.
Pendant 6 ans.
Ce petit patelin paumé où règne chômage et insécurité.
Alors oui, Céline, j'ai cru comprendre que tu avais une petite information insolite sur le Front National que tu voudrais nous faire partager.
Oui, alors, dans mon département qui est donc la Haute-Loire, le FN a investi 6 candidats. Donc jusqu'ici, rien de très bizarre, sauf que ces 6 candidats sont issus de la même famille. Alors oui, c'est un peu étrange. L'EFN a justifié ça en disant qu'ils étaient vraiment très compétents tous. Non, il ne manque pas du tout de candidats en Haute-Loire. Non, c'est pas du tout bizarre. Enfin voilà, c'était l'info insolite. Alors je tiens à préciser que bien sûr, ils ne sont pas tous dans le même canton. Donc voilà, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais ça a fait, l'objet de discussions dans certains médias, des radios qui sont intéressées à l'Haute-Loire pour une fois, pour une info un petit peu étrange.
Oui, le népotisme, cette famille au FN. Oui.
J'imagine que Jean-Marie Le Pen justifierait ça en disant qu'ils sont de bonne race, qu'il n'y a pas de raison. Il l'avait déjà dit à propos de sa propre famille, donc pourquoi pas?
Oui, donc on a un peu le sentiment d'un choix entre la peste et le choléra parmi tous ces candidats FN. C'est un petit peu le même choix qu'on a en Syrie, toute proportion gardée, bien sûr, puisque à quel prix doit-on lutter contre le terrorisme ? On voit que les Occidentaux recommencent à fréquenter Bachar el-Assad après lui avoir longtemps fermé leurs portes, et les portes de l'ambassade, entre autres. À quel prix doit-on lutter contre eux ? Si jamais on peut apporter une réponse à cette question qui reste...
Bah, moi, je suis fasciné par la manière très Disneyland dont on semble mener la diplomatie européenne en ce moment. On a quelques grandes figures du mal. Alors, il y a Poutine, c'était Bachar el-Assad il y a encore 6 mois. Et puis, petit à petit, on redécouvre peut-être que les choses sont un peu plus complexes. Bon, c'est mal parti pour Poutine de ce point de vue-là. Mais... Et donc, évidemment, ce sont des rapports de force compliqués. Il ne s'agit de rien d'autre que des rapports de force. Et après, pour la question du choix qui va se poser... On tranchera sans doute jamais, puisqu'on retombe toujours sur le même problème, qui est celui d'une diplomatie européenne, de son existence, de ses attributions, et on n'en sortira pas. On restera à la remorque des États-Unis à suivre leur bon vouloir, de ce point de vue-là.
Et puis c'est un petit peu inquiétant, non, je sais pas, de voir des parlementaires qui peuvent, comme ça, partir dans un pays qui est sur la liste noire du ministère des Affaires étrangères, rencontrer un chef d'État...
Alors je dois dire qu'ils se sont prêtés au jeu aussi de Bachar el-Assad, qui a organisé leur trajet, qui leur a fait rencontrer les bonnes personnes. Ils se sont tout simplement prêtés à la propagande du régime syrien, ce qui est absolument abominable. Enfin bon, ils mis en scène et ils en sont revenus très fiers d'eux, à étaler leur tribune dans la presse, je pense notamment à Jacques Millard, qui a d'ailleurs dit qu'il a rencontré des personnes qui sont mortes il y a 2 ans, donc ce qui nous laisse quand même... Qu'est-ce qui laisse planer des doutes sur la véracité de ce qu'il dit ou de ce qu'il a fait là-bas. En tout cas, c'est très inquiétant. Une autre info, d'ailleurs, au Moyen-Orient, en ce moment, on a les élections en Israël. Alors, est-ce que Benjamin Netanyahou va être réélu ? Pour l'instant, la campagne n'est pas vraiment très, très animée, surtout au niveau des questions de sécurité, puisque la gauche globalement, oui, le camp de la gauche et le camp de la paix essaient vraiment d'éviter ces questions parce qu'ils savent qu'ils vont... se mettre à dos une partie de la population. La droite, et en particulier l'extrême droite radicale, est très très bien placée pour ces élections. Donc là encore, du côté d'Israël, on doit s'attendre à une sorte de fermeté en plus, ce qui laisse présager de jours assez sombres encore.
Oui, encore pour le Moyen-Orient. Alors, merci à tous autour de la table pour avoir participé et pour lancer cette nouvelle émission. Merci à Nicolas qui a assuré la technique vaillamment. Nous espérons que, bien évidemment, ce premier numéro vous a plu et nous vous donnons rendez-vous dans 2 semaines pour le 2e numéro du journal radiophonique amplifié.